Je crois que bah, vous le connaissez par cœur. Alors, padabadada, pam pam pam, padabadada, pam pam pam. Bonjour les auditeurs, bonjour les auditrices. Padabadada, pam pam pam. Et voilà, 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 voilà.
Dimanche midi.
Dimanche midi.
Dimanche midi.
Dimanche midi. Dimanche midi, édition du 29 décembre 2024. Une présentation de Florence Nequeux. Regard prospectif sur l'année 2025 en trois tableaux. La modernisation de l'administration camerounaise avec l'entrée en plein exercice de l'application Aigle. Le grand rapace planeur prend définitivement son envol dès le 1er janvier 2025.
Désormais, tout change dans la gestion de l'administration publique, notamment en termes de la carrière, de la solde et même de bien d'autres choses. Nous allons avoir 14 modules et donc nous sommes là dans une sorte de révolution qui ne dit pas ça.
Nous pouvons rassurer les uns les autres que cette nouvelle application qui va être déployée est un système qui est digne de confiance, un système qui est à la hauteur de ses enjeux.
Le nouveau visage du fisc au Cameroun. Le cas de l'impôt sur le revenu.
La déclaration, c'est d'abord de dire que j'ai tel revenu. Si vous avez un salaire, c'est à partir de ce salaire qu'on vous coupe l'IRPP. Si en plus du salaire, vous avez d'autres revenus régis par le Code général des impôts relativement à l'IRPP, si vous percevez des loyers, vous devez déclarer par rapport à l'impôt qui est...
Et si c'est des collectivités territoriales décentralisées.
Bobo Saliou, maire de la ville de Ngaoundéré. C'est une bonne chose qu'aujourd'hui la population soit concernée par sa gestion. Il y a des impôts à payer, il y a des taxes à payer. Si les gens ne payent pas, moi je n'ai pas de l'argent pour faire le travail de la communauté. La communauté compte sur cette population-là. Et je suis sûr qu'elle va le faire puisqu'elle voit aujourd'hui là où va son argent.
Ngaoundéré, Abdulaziz Amadou, dimanche midi.
Dans l'attente de la grande traversée, études évaluatives et analyses prospectives des outils de performance du Cameroun de demain. C'est l'événement. Édition du 29 décembre 2024. La toute dernière livraison de l'année civile. Notre invitée, Emeline Bihina, chef de centre régional des impôts du centre 1 sur la nouvelle donne fiscale au Cameroun. L'administration fiscale brandit une panoplie de sanctions à l'encontre des contribuables réfractaires. Quel est le régime des sanctions mis en place pour amener les uns et les autres à souscrire à ce devoir citoyen?
Nous avons deux types de sanctions. On a les sanctions pécuniaires, le paiement de 10% par mois de retard sans excéder 30% de l'impôt dû en cas de déclaration tardive. Ce qui signifie que pour le contribuable qui s'est abstenu de déclarer, l'administration fiscale elle-même se chargera de le faire à sa place. En ce moment-là, la déclaration sera faite sur la base des éléments à la disposition de l'administration fiscale. Et le contribuable fera dans ce cas l'objet d'une taxation d'office. Les impôts dus seront assortis d'une pénalité de 100%. S'agissant des sanctions particulières, nous avons le retrait du fichier actif des contribuables de la Direction générale des impôts. Si vous êtes défaillant, si vous n'avez pas respecté cette obligation, la Direction générale des impôts, après mise en demeure, vous retirera purement et simplement du fichier des contribuables actifs.
Ici Mora. Bienvenue au centre DDR ultramoderne, fraîchement inauguré dans la région de l'extrême nord. En page jaune de dimanche midi, déjà 4075 ex-combattants repentis dans les rangs en 6 ans.
Les centres DDR n'ont pas vocation à retenir indéfiniment les ex-associés ou ex-combattants qui déposent les armes. Nous avons procédé dans le cadre de l'apprentissage aux petits métiers à quelques formations, la couture pour les femmes, le petit commerce, la menuiserie, l'automécanique, l'agriculture.
Dans ces centres de justice et à vivre ensemble, nous avons les gens de communiquer. Chaque jour, on fait réunion. Dans ces centres de justice, j'ai pris beaucoup de choses, mais j'ai fait un peu école ici. Dans les boutiques, j'ai vendu beaucoup de choses. J'ai dit grand merci à Dieu, c'est à l'État.
Invité au dossier de la rédaction, Fayengo Francis, coordonnateur national du Comité national de désarmement, démobilisation et réintégration, CNDDR. Monsieur le coordinateur national, vous comptez à votre actif 4075 combattants répartis en 6 ans. Êtes-vous satisfait des résultats obtenus?
Je suis très satisfait des résultats obtenus parce que dès le départ, personne ne croyait qu'on allait même avoir un seul ex-combattant. Même nos proches amis nous disaient, vous n'aurez rien. Et si on a 5000 aujourd'hui, presque 5000, je crois qu'on est satisfait. Surtout que nous savons que dans la brousse, il n'y a plus beaucoup de combattants.
Le JDM.
À 13h, le JDM et les derniers développements de l'actualité. Aujourd'hui est dimanche, les rendez-vous cultes de dimanche midi. Le commentaire de la rédaction, les espoirs nés de la loi sur la fiscalité locale. Conversation avec mon voisin, capture des faits de société sous forme d'éphémérides. Valérie Dicos ou Marou.
Mon voisin me prescrit la prudence et me suggère de jeter un regard sur le rétroviseur de 2024. Lundi, il commence justement par les réseaux sociaux. Nous en avons fait des rings de boxe, des octogones de MMA où la violence est transportée avec des mots d'une méchanceté incroyable. On y annonce des morts de gens qui, bon pied bon œil, apprennent leur propre décès en lisant les réseaux sociaux. Mardi, je me souviens que mon voisin et moi n'avons eu de cesse de parler de la salubrité dans nos grandes villes au point de perdre espoir. Nous voici en train d'achever l'année quasiment dans la poubelle. Est-il possible de s'habituer à la poubelle? Mon voisin est catégorique, c'est non.
Dans les coulisses de la scène, Saint-Sylvestre, des idées peu coûteuses et savoureuses qui font recette. Menu à la carte, proposition du chef.
Plat principal, nous allons préconiser plutôt le poulet. Il sera braisé, comme on dit. Qu'est-ce qui va accompagner le poulet? Je préconise pour la légèreté des petits légumes de la soupe. Des haricots verts, des radis au marché, tant mieux parce qu'ils coûtent pas bien cher. Mais sinon, à la place du radis pour faire blanc, on peut très bien utiliser des pommes de terre.
Devoir de mémoire. Hommage aux serviteurs de l'État et autres grandes figures qui nous ont quittés en 2024. Le carnet noir de dimanche midi.
Issa Ayatou, ancien président de la Confédération africaine de football.
L'objectif numéro un au niveau de la Confédération, c'est la promotion du football au niveau du continent africain. Il faut pérenniser les acquis, il faut aller au-delà de ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir être aussi compétitif que l'UEFA, aussi compétitif que l'Amérique du Sud du point de vue résultat.
Abissou Bidung, secrétaire général de la Fondation Chantal Biya.
Il y a 20 ans aujourd'hui, c'est Madame Chantal Biya, présidente fondatrice de la fondation qui porte son nom, créer le Children First Center, qui est un centre qui accueille les enfants en difficulté et en détresse. L'objectif était d'apporter un secours aux enfants abandonnés. Après la création du centre mère et enfant, elle a constaté qu'il y avait un autre fléau qui affectait les enfants, l'abandon.
Charles Botouangon, directeur général de l'Agence des normes et de la qualité.
Les normes sont des outils. Et ces outils interviennent dans tout ce que nous faisons dans la vie. Dans nos différents pays, nous devons développer les outils d'analyse, de contrôle. Nous devons avoir de bons laboratoires.
Landry Nguémo, ancien lion indomptable.
Vous savez, l'équipe nationale, on a eu des veilles de matchs très compliquées. On était dans les couloirs, on discutait, on ne dormait pas. Ça n'a pas empêché qu'on me le maillot le lendemain. Donc je pense que quelque chose est en train de se créer. C'est un groupe, un nouveau groupe avec les anciens, ceux qui n'étaient plus là, qui reviennent. Il y aura un mélange qui va se faire et je pense que ça peut être bon augure pour la suite.
DM Sport 2024, l'année sportive en raccourci. Ce sera le dernier sprint de l'année dans Dimanche Midi. Mesdames, Messieurs, Dimanche Midi, c'est tous les dimanches de midi à 14h. 120 minutes de décryptage des faits marquants de l'actualité de la semaine avec ceux qui font l'événement sous le prisme de la rédaction centrale radio et son réseau régional de correspondants. Merci, mesdames, messieurs, de rester fidèles au poste national de la CRTV.
Dimanche midi, une présentation de
Florence Meuque.
Le commentaire de la rédaction.
De bonnes nouvelles en perspective pour le financement du développement local au Cameroun. La loi sur la fiscalité locale, promulguée par le président de la République le 23 décembre 2024, donne désormais des coudées franches au processus d'accélération et d'approfondissement de la décentralisation. On en attend un accroissement substantiel des ressources au bénéfice des collectivités territoriales décentralisées. Le commentaire de la rédaction dans Dimanche Midi, Joseph Clément Oumba.
Tributaire de la réussite du processus de décentralisation, la fiscalité locale aura suscité au Cameroun moult espoir d'une accélération du développement dans nos régions. Plusieurs estiments toujours que les ressources mises à la disposition des collectivités territoriales décentralisées ne sont pas à la hauteur des nombreux défis à relever. En 2023, les recettes mobilisées en faveur des CTD se sont élevées à la somme de 261 milliards de francs CFA, soit 7,3% des ressources propres de l'État. Un pactole important certes, mais pas suffisant pour répondre aux besoins exprimés par les collectivités, territoriales décentralisées. Même pas les 15% préconisés dans le cadre de la décentralisation. La loi sur la fiscalité locale est donc ici une aubaine. Le texte, soulignait un député de la Nation, le texte intervient pour sauver la politique de la décentralisation, le principe de subsidiarité, faisant obligation à l'État de confier des responsabilités aux autorités publiques en capacité d'atteindre les résultats attendus, sans trahir l'objectif de renforcement de l'autonomie financière des CTD. Déterminant les impôts, taxes et redevances prélevées au profit des collectivités territoriales décentralisées, la loi sur la fiscalité locale est un levier important du développement. L'on s'attend ainsi à un accroissement des impôts locaux, notamment les impôts communaux, les centimes additionnels communaux sur les impôts et taxes de l'État, les taxes et redevances communales, les taxes et redevances des régions. Les produits des impôts communaux devraient provenir de plusieurs sources, parmi lesquelles les patentes, la contribution des licences, l'impôt général synthétique, la taxe foncière, les droits de mutation d'immeubles, de timbres automobiles, le droit de timbre sur la publicité, la taxe de séjour, le droit d'assise spéciale. Pour la pleine réussite de cette fiscalité locale, chacun devrait y mettre du sien. Et pour cause, toute personne physique ou morale de nationalité camerounaise ou étrangère qui exerce dans une commune une activité économique, commercial ou industriel, ou encore toute autre profession est assujettie à la contribution des patentes. Ce sont ces recettes, issues de nos impôts, qui vont permettre de construire les routes, les écoles, les ponts, les hôpitaux, car l'État ne dispose pas d'un coffre-fort garni pour s'acquitter de tous ses devoirs. Les impôts sont irremplaçables dans le financement des services essentiels, indispensables dans le développement économique des nations. Dans nos pays, les ressources fiscales demeurent limitées, parce que beaucoup ne s'acquittent pas toujours de leurs obligations fiscales. La résistance à l'impôt y est forte. Ajoutez à cela les problèmes de gouvernance, la corruption qui entrave la collecte des impôts et l'efficacité de la mise en œuvre des projets communs de développement. L'avènement de la fiscalité locale est donc une nouvelle ère qui s'ouvre pour la décentralisation et le développement local.
Décentralisation et développement local sont deux leviers d'action politique pour hâter la démocratie de proximité et impliquer davantage les populations à leur propre développement. Ainsi, pour que pouvoir reste au peuple souverain, il importe que chaque citoyen s'acquitte de ses impôts, y compris les impôts locaux. Joseph Clément.
Merci Florence Mequeux. Le texte sur la fiscalité locale entrevoit donc un accroissement des ressources propres des collectivités territoriales décentralisées, la conséquence étant la possibilité pour ces CTD de réaliser avec moins de difficultés les divers projets au profit des populations. Ici et là, l'administration fiscale va jouer un rôle important dans cette nécessité d'optimiser les recettes locales au regard des résultats mitigés des équipes de collecte communale. Le risque zéro n'existe pas et le recours à la digitalisation peut permettre de réduire les dérives souvent décriées dans la collecte manuelle des taxes directement effectuées par les CTD. Il faut aussi espérer une collaboration plus franche entre les collectivités territoriales décentralisées et les services fiscaux de l'État. C'est quasiment une nouvelle école pour que les uns et les autres n'empiètent pas sur les domaines qui ne sont pas les leurs. Il n'est pas exclu que l'on entrevoie également la transformation des centres divisionnaires des impôts en centres de fiscalité locale. En somme, la loi sur la fiscalité a un effet multiplicateur sur le développement local qu'elle devrait booster. Il est plus qu'indispensable pour chacun d'entre nous de payer ses impôts, c'est-à-dire participer à l'effort commun pour financer les différents services publics et assurer leur fonctionnement ainsi que leur pérennité. Tout ce qui est important pour vous et moi, des hôpitaux pour se soigner, des établissements scolaires pour que nos enfants aillent à l'école et se forment, des infrastructures routières pour mieux circuler, la police, l'armée, la gendarmerie pour la sécurité des personnes et des biens. C'est tout dire.
C'était le commentaire de la rédaction, une signature de Joseph Clément Omba. En bordure des mangroves de Douala, dans la région du littoral, s'étendent à perte de vue des infrastructures modernes de pêche, de conservation et de commercialisation des produits halieutiques issus de la principale activité des populations locales. Au nom du chef de l'État, Paul Biya, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté, a inauguré en fin de semaine le débarcadère et le marché rénové de ce haut lieu de production et de commercialisation du poisson. Focus sur le nouveau goût du poisson pêché à Youpoué, séance de dégustation avec notre envoyé spécial, Laurentine Bekono.
Du poisson frais, du poisson transformé, du poisson bien conservé, vendu sur des présentoirs qui donnent envie de commercer ou de consommer en toute quiétude. C'est désormais possible à Youpoué. Au dernier comptoir de pêche dans les eaux fluviales du Vouri, les amateurs du poisson frais aux braises pourront le déguster, comme qui dirait, les pieds dans l'eau, le regard en miroir dans les eaux de flux et reflux qui bercent l'océan Atlantique.
Est-ce que les populations de Youpoué sont présentes?
Le poisson sera disponible en quantité et en qualité en toute saison.
Il me plaît de relever que dans sa stratégie de développement à l'horizon 2030, le Cameroun se donne pour ambition d'assurer son autosuffisance alimentaire et de conquérir les marchés de la sous-région à travers notamment la modernisation de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture.
Joseph Dion Gouté, Premier ministre chef du gouvernement, émissaire du chef de l'État Paul Biya à Youpoué.
Pour ce qui est de la pêche et de l'aquaculture, il s'agit d'améliorer les équipements et les infrastructures de production, de transformation, de conservation, mais aussi de mise en marché des produits halieutiques. Dans cette logique, l'un des leviers d'action est incontestablement l'aménagement des points de débarquement dans les principaux plans d'eau et les pêcheries. C'est dire que le projet d'amélioration du débarcadère et du marché aux poissons de Youpoué traduit la volonté du gouvernement camerounais de moderniser ses outils de production, d'optimiser la sécurité sanitaire des produits de la pêche, en même temps de promouvoir le travail décent, notamment des femmes marieuses. L'infrastructure qui est inaugurée ce jour est un véritable levier pour le développement de l'économie bleue et de la pêche artisanale dans la région du littoral. Elle va contribuer à améliorer la capacité des opérations ainsi que les conditions hygiéniques de commercialisation du poisson.
D'ici, l'on peut imaginer de quel fil de pêche sera fait le spectacle sur cette plateforme de 6100 m² avec ses composantes de quais de débarquement et d'embarquement et des espaces spécialisés tels ce bâtiment fonctionnel dédié au marché aux poissons. Assurément, la Saint-Sylvestre et le Nouvel An y trouveront une clientèle de pêche pour d'excellentes fêtes de fin d'année.
Cameroun Oboso.
Fréquence gouvernementale dans Dimanche Midi, Laurentine Bocono, CRTV.
Dimanche midi.
Midi, l'événement.
Regard prospectif sur l'année 2025. Aigle, le grand rapace, déploie bientôt ses serres. Le 1er janvier 2025 marquera la mise en service de la nouvelle application informatique de gestion logique des effectifs et de la solde. Le nouveau système de gestion intégrée des personnels de l'État et de la solde au Cameroun est en cours de finalisation par le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative et le ministère des Finances avec la contribution de tous les autres départements ministériels. Son niveau de mise en œuvre a fait l'objet d'une évaluation à Yaoundé à la faveur de la 97e session des travaux de la Task Force chargée du suivi et du contrôle du projet de mise en œuvre de Aigle. C'était sous la présidence du ministre Joseph Lee. Il s'agit, selon les experts, d'un outil entièrement numérique dont l'originalité intègre de nombreuses innovations. Introduction de la biométrie pour la maîtrise des effectifs ou encore d'un système d'archivage électronique pour la conservation sécurisée des dossiers des personnels. À quoi devrait-on s'attendre avec l'opérationnalisation de cet outil de performance? Premier tableau en ouverture du dossier événementiel de dimanche midi, un reportage de Agnès Sylvienne Anzama. Voici venu Aigle, le rapace justicier, en position de prédateur pour traquer le faux et les faussaires dans la gestion des effectifs et de la solde de l'État qui se trouveront désormais plus assainis pour le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. C'est une réforme cruciale dont l'entrée en production est très attendue.
Aujourd'hui, je peux vous dire que nous y sommes. Maintenant, il s'agit d'amorcer la dernière ligne droite qui va nous permettre d'asseoir définitivement Aigle. Et il s'agit d'ailleurs de l'accomplissement d'une instruction qui nous a été donnée comme cahier de charge par le chef du gouvernement, aller vers plus de modernisation de notre administration.
Le ministre Joseph Lay, président du comité interministériel chargé de l'assistance du prestataire, du suivi et du contrôle du projet de mise en œuvre des Aigle, se veut clair et optimiste avec l'application informatique de gestion logique des effectifs et de la solde. Les choses vont changer dans la maîtrise des ressources humaines, de la carrière et de la solde de l'État.
L'étape est très utile et permet justement à l'Aigle de prendre son envol, d'exprimer sa majesté, sa vigilance, sa puissance, pour que désormais tout change dans la gestion de l'administration publique, notamment en termes de la carrière, de la solde et même de bien d'autres choses. Nous allons avoir 14 modules et donc nous sommes là dans une sorte de révolution qui ne dit pas ça.
Son originalité est davantage déclinée par Cyril Edoualo, le directeur général du budget au ministère des Finances, par ailleurs coordonnateur national de la Task Force de travail pour la mise en œuvre de Aigle.
Le gouvernement a entendu les différentes plaintes des usagers de la fonction publique, a entendu les différents dysfonctionnements inhérents à l'évolution dans le temps de la fonction publique et est en train de mettre en place un système robuste qui va permettre de résoudre toutes ces difficultés-là. Nous pouvons rassurer les uns les autres que cette nouvelle application qui va être déployée est un système qui est digne de confiance, un système qui est à la hauteur de ces enjeux.
Avec Aigle, des mutations profondes seront introduites dans la gestion des ressources humaines de l'État, mais également une meilleure maîtrise de la solde. Ce qui va changer à ce niveau est présenté par Cyril Edou. Allô.
La solde s'en trouvera beaucoup mieux maîtrisée, beaucoup mieux suivie. La non-accumulation des arriérés. Il n'y aura plus les problèmes de rappel en mémoire. Il y a la célérité dans le traitement. Je peux vous dire que pour tourner la solde, nous prenons 72 heures au moins. Avec le CGPS2, nous avons une journée. J'ai même envie de dire, moi, ça fait des économies dans le traitement des dossiers de solde, de la paix. Également, un avantage important, l'assainissement automatique, les doubles matricules, les abandons de poste, les décès. Il y a la bonne liquidation des droits à pension.
La 97e session des travaux de la taxe Force, le 23 décembre dernier, a permis de présenter l'état d'avancement des travaux de mise en production à 3 jours de l'échéance. La période mobilise tous les acteurs impliqués dans l'aboutissement de ce processus. Yemen Manaï est le chef projet technique CIMAC, un des prestataires.
C'est une solution intégrée à la différence au passé. Donc, il y a plusieurs systèmes pour l'État, Antelope pour le calcul de la solde, CGPS pour la gestion de carré, Saga pour la gestion de recrutement. Maintenant, on englobe tous les modules. Il y a la gestion de la solde, de recrutement, gestion de l'organigramme, la gestion de la carrière, la liquidation de droits, la retraite. Donc tout ça s'est intégré dans un seul système. Ça donne plus de flexibilité pour l'exécution des processus métiers de différentes administrations.
En un clic et à partir du 1er janvier, l'agent public pourra donc introduire une demande de suivi de ses actes de carrière et savoir son niveau d'avancement à distance à partir de plusieurs terminaux numériques, explique Moïse Tinfa, le nouveau chef de la division de coordination des Aigle au Minfopra.
Les prises en charge seront automatiques et de manière transparente à l'usager. À côté de cela, les avancements automatiques font face au phénomène d'agents fictifs, d'abandon de poste et par là même préserver les intérêts de l'État.
La biométrie, l'archivage électronique sont également introduites parmi les 14 modules innovants qui composent Aigle et depuis le 2 janvier 2024, l'implémentation à blanc de Aigle donne déjà satisfaction, soulignent les cadres métiers des ministères à l'instar de celui du ministère de la Défense.
EBD Ignace, DRH du ministère de la Défense, en charge des personnels civils. Nous avons pris part à l'exploitation à blanc. C'est déjà quelque chose de très important pour le ministère de la Défense pour voir si les fonctionnalités du nouveau CIGIPES effectivement cadrent avec les exigences. Voilà, jusqu'ici, les opérateurs sont restés ouverts aux différentes observations qui ont été faites un peu plus flexibles, automatiques.
Tout ceci contribuera à moderniser le service public camerounais et surtout à rétablir un nouveau contrat social avec l'usager roi.
C'est une ligne de démarcation nette avec le passif, avec ce nouveau système. Nous devons aller plus loin parce qu'il ne s'agit pas seulement de gérer la carrière et la solde, mais il s'agit aussi de contrôler les effectifs avec la biométrie, de la gestion électronique des archives. Donc, il y a beaucoup d'autres composantes qui vont rentrer là-dedans de telle sorte que nous puissions avoir à la fois la maîtrise des effectifs et la maîtrise de la solde. Et enfin, donc, contrôle des effectifs pour mieux assainir encore notre système.
Aigle arrivera avec un label rigueur, transparence, efficacité dans la maîtrise des ressources humaines et de la solde. En attendant son entrée en action, la dernière sortie de minfopra.gov.cm met en vitrine le logo de la nouvelle application, un aigle en 3D et en position de prédateur pour marquer la rupture nette avec les anciens systèmes, d'où l'accueil majestueux qui lui est réservé à la une de la dite revue bilingue. Bienvenue Aigle.
Dimanche midi.
Deuxième tableau de ce regard prospectif sur l'année 2025, la nouvelle loi sur la fiscalité locale. Comment les collectivités territoriales se préparent-elles ? La promulgation récente de cette loi par le président de la République marque une étape décisive dans le processus de décentralisation au Cameroun. Elle redéfinit les perspectives financières des communes et des régions. Cette réforme, qui est perçue comme une opportunité majeure par les collectivités territoriales décentralisées, pose sur un autre plan des défis d'adaptation et de mise en œuvre. Réaction en chaîne des acteurs dans ce reportage de notre correspondant permanent en Ngaoundéré, Abdulaziz Amadou.
En Ngaoundéré, comme dans d'autres localités de la région et du pays, les collectivités territoriales décentralisées s'activent déjà pour s'approprier les nouvelles dispositions de la loi sur la fiscalité locale. Cette réforme qui vise à améliorer l'autonomie financière des communes et des régions implique des changements significatifs dans la collecte et la gestion des ressources locales. Madame Dada Fadimatou Aliou, maire de la commune de Mayo-Darlé, joint au téléphone et optimiste.
Il faut dire que la commune de Mayo-Darlé a... Nous avons l'étain, le granit et une forêt de plus de 70 000 hectares. Donc c'est des ressources naturelles que nous devions absolument exploiter pour avoir des ressources propres.
Conscient des enjeux, certains magistrats municipaux ont déjà commencé la sensibilisation auprès des populations, les contribuables en particulier. Bobo Saliou, maire de la ville de Ngaoundéré.
C'est une bonne chose qu'aujourd'hui la population soit concernée par sa gestion. Il y a des impôts à payer. Il y a des taxes à payer. Si les gens ne les payent pas, moi, je n'ai pas de l'argent pour faire le travail de la communauté. La communauté compte sur cette population-là. Et je suis sûr qu'elle va le faire, puisqu'elle voit aujourd'hui là où va son argent.
Pour le président du conseil régional de la Damawa, cette loi offre de nouvelles marges de manœuvre pour financer les projets de développement. Docteur Mohamedou Dewa.
C'est une fierté pour nous et pour toute la population. Nous sommes en train de densifier nos investissements dans chaque arrondissement, dans chaque hôpital de district, dans chaque hôpital de région. Nous avons engagé un plaidoyer auprès du ministère de la Santé qui a créé 3 hôpitaux régionaux dans la Damawa et nous on s'est engagé à investir dans ces hôpitaux-là.
Pour y parvenir, les collectivités territoriales décentralisées doivent faire face à plusieurs défis, dont le plus urgent est le renforcement des capacités du personnel. Jean-Claude Ocheng, fiscaliste et chef du centre régional des impôts pour la Damawa.
Nous maintenons ce qu'on appelle les impôts communaux, les impôts locaux,
qui reste les impôts qui jadis étaient assis, liquidés et recouvrés par les services fiscaux. On ne va plus parler des taxes communales, on va parler maintenant des redevances communales. Donc le nombre a été réduit à une proportion qui permette aux services fiscaux qui vont désormais procéder à leur émission, leur liquidation et leur recouvrement à une proportion rationnelle. Le ministre des Finances, à travers le directeur général des impôts, a instruit un déploiement national pour accompagner les CTD, non seulement à la bonne compréhension, mais également à la bonne appropriation de cette nouvelle loi.
Le législateur a tout prévu pour éviter les disparités économiques entre les communes situées en zone rurale et urbaine.
La loi a prévu ce qu'on appelle l'intercommunalité et la péréquation. L'interrégionalité et la péréquation. Cela veut dire que l'organisme chargé de centralisation, notamment les FEICOM, va recevoir les ressources soumises à péréquation et va procéder à leur redistribution au prorata des populations dans chaque région. Donc il n'y aura pas de disparité. On a constaté que les taxes communales qui jadis étaient levées, recouvrées par les CTD, n'avaient pas toujours un impact significatif dans les budgets des collectivités territoriales décentralisées. Maintenant, en confiant les missions, le recouvrement aux services fiscaux de l'État, le législateur vise à développer la mobilisation et le relèvement de la collecte de ces taxes-là, mais également à permettre que les CTD aient les moyens nécessaires pour exécuter leur projet de développement.
Entre opportunités et défis, la récente promulgation de cette loi sur la fiscalité locale par le président de la République appelle donc à une mobilisation générale pour transformer l'autonomie financière en levier de développement. Une aventure qui ne fait que commencer. Ngaoundéré, Abdelaziz Amadou, pour Dimanche Midi.
Troisième tableau, le nouveau visage du fisc au Cameroun. La loi de finances 2024 a restauré l'obligation pour les particuliers de soumettre une déclaration annuelle des revenus. Cette réforme fiscale suspendue en 2004 et réhabilitée 20 ans plus tard rentre dans le cadre de l'élargissement des recettes fiscales de l'État et de la transparence dans la déclaration des revenus. La pression fiscale montera d'un cran au regard des perspectives budgétaires de 2025. Le législateur a prévu de nombreuses sanctions en cas de non-respect de cette obligation déclarative. Sur le terrain, le processus reste peu mal maîtrisé par de nombreux contribuables, d'où la nécessité de multiplier des campagnes d'information. Reportage Priskanjeng Mungolo.
Des files d'attente qui s'allongent, des questions qui se multiplient et des agents qui redoublent de patience et de pédagogie. Cette ambiance a régné pendant plusieurs mois dans les centres des impôts du Cameroun. Au centre divisionnaire de Yaoundé, par exemple, une partie du personnel est dédiée à l'accompagnement numérique. Des ateliers explicatifs sont organisés pour guider les contribuables.
Pour faire sa déclaration, il suffit juste d'avoir ton numéro identifiant. S'il est déjà établi, s'il n'est pas encore établi, on est obligé d'abord de créer ton numéro d'identité unique.
La déclaration en ligne est désormais la règle. Si cela simplifie le processus pour certains, d'autres ont du mal à se faire à l'outil numérique, en particulier les personnes âgées.
J'ai déclaré mes impôts il y a quelques jours. Comme je ne m'y connais pas dans le numérique, je me suis confié à quelqu'un. Ça va.
Si le doute envahit encore l'esprit de nombreux contribuables, Ganama, contractuel, connaît par cœur la procédure de déclaration des revenus.
Je suis allé sur le site des impôts, www.impots.cm. J'ai entré mon numéro d'identifiant, ensuite le mot de passe. Puis je suis allé sur la rubrique déclaration des particuliers. J'ai rempli le profil, j'ai enregistré. Il y a une page qui s'ouvre, une page où il faut remplir les montants du total de gains annuels et total de retenues annuelles. Je les ai remplis, j'ai certifié et j'ai enregistré et complété. Il y a eu deux documents qui se sont générés, l'avis d'imposition et puis l'accusé de réception. C'est mieux en ligne, ça évite trop de tracasseries.
La mission des agents va au-delà de la technique. Ils rassurent et aident à clarifier les démarches.
vieille Jubola destinée. Actuellement, ça a changé. C'était d'abord déclaration des particuliers. Maintenant, c'est écrit DSF. Tu cliques au niveau de DSF. Après la DSF, il va d'abord falloir que tu remplisses un formulaire qui va comporter toutes tes données. J'ai accompagné plus de 200 personnes, voire même 300. Il y a ceux qui n'avaient pas le temps pour faire venir vers celles-là qui maîtrisaient mieux la plateforme. Ils ont repoussé la date limite. Après le 9, on a continué à faire. Le site est encore opérationnel actuellement.
La déclaration annuelle des revenus est une formalité par laquelle chaque salarié, entrepreneur ou contribuable informe l'administration fiscale de ses revenus durant l'année précédente. Une étape cruciale pour le calcul de l'impôt, un acte de citoyenneté, souligne Mohamadou Nouroudini, contrôleur principal des régies financières à la Direction générale des impôts.
La déclaration, c'est d'abord de dire que j'ai tel revenu. Si vous avez un salaire, c'est à partir de ce salaire qu'on vous coupe l'IRPP. Si en plus du salaire, vous avez d'autres revenus régis par le Code général des impôts relativement à l'IRPP, si vous percevez des loyers, vous devez déclarer par rapport à l'impôt qui est imputé à ces revenus. Ce n'est pas que vous dites que vous avez une fortune, ce n'est pas trop dans cette logique. C'est de vous rappeler que le revenu que vous tiré de telle activité-là est soumis à un impôt. C'est à base de ce revenu qu'on calcule l'impôt que vous devez par rapport à l'activité que vous menez. Vous êtes censé déclarer tout ce que vous avez, c'est aussi pour votre sécurité.
La déclaration annuelle des revenus reste un moment important pour les salariés et l'ensemble des contribuables. Malgré les facilités apportées par la digitalisation et la télédéclaration, bon nombre des contribuables ont toujours peur de commettre des erreurs ou de subir un contrôle quelconque. Les centres des impôts restent donc des acteurs essentiels pour maintenir une relation de confiance entre l'administration fiscale et les citoyens.
Dimanche midi, face à la rédaction.
Dimanche midi reçoit ce dimanche Emeline Bihina, chef de centre régional des impôts du Centre 1. Bonjour Florence. La loi de finances pour l'exercice 2024 a restauré l'obligation pour les particuliers de soumettre une déclaration annuelle de revenus. Au moment où le gouvernement accentue la pression sur les salariés des grandes entreprises, qui est ciblé par cette opération?
Alors, peut-être avant de parler des personnes ciblées, ou alors du moins des personnes visées par cette déclaration, il faut dire que l'État du Cameroun est de plus en plus confronté à des défis sécuritaires, des défis sanitaires, le poids de la dette, autant de défis qui nécessitent donc une mobilisation accrue des ressources budgétaires en vue d'y faire face. L'amélioration de la fiscalité des particuliers apparaît comme un levier important que l'État pourrait activer au regard du potentiel. Nous avons constaté que les recettes cumulées de la taxe foncière et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au Cameroun représentent en moyenne 7% de ces recettes globales et moins de 2% du PIB, alors que la moyenne africaine, elle est de 17% et de 24% lorsque nous allons du côté des pays de l'OCDE. Un autre élément de contexte et non moins important, c'est le renforcement de l'équité fiscale. Car jusqu'ici, on a constaté que seuls les professionnels subissent la charge de l'impôt, alors même que nous avons également des particuliers qui bénéficient tout autant des revenus, parfois des revenus bien plus importants que les entreprises professionnelles. Parce qu'il faut le dire, une entreprise professionnelle, pour qu'elle réalise un bénéfice, mobilise un certain nombre de charges qui font que elles peuvent parfois se retrouver en situation de déficit parce qu'elles ont mobilisé un certain nombre de charges. Donc, il y a cette nécessité de renforcer l'équité fiscale afin que tout le monde paye et que tout le monde contribue.
La déclaration annuelle des revenus est une obligation qui a toujours existé dans notre dispositif législatif et qui a été suspendue il y a 20 ans. Après vous avoir écouté sur les raisons qui ont motivé sa restauration en 2024, Madame le chef de centre, nous sommes curieux de savoir qui est visé par cette opération, par la déclaration annuelle des revenus.
La déclaration annuelle des revenus des particuliers, comme son nom l'indique, concerne toute personne physique ayant disposé d'un revenu au titre d'un exercice.
C'est-à-dire quoi?
Alors, je suis salarié. À la fin de l'exercice, je déclare la somme des revenus que j'ai perçus tout au long de cet exercice-là en termes de salaire. Je suis propriétaire. d'un immeuble locatif, je déclare au terme de l'exercice les revenus que j'ai engrangés au titre de cette activité. Nous avons également des personnes physiques bénéficiant des revenus tels que des dividendes ou des placements effectués auprès de certains établissements qui ont l'obligation également de les déclarer et de payer l'impôt sur le revenu correspondant. Durant la campagne 2024, nous avons été approchés par nos frères de la diaspora qui se demandaient est-ce qu'ils étaient concernés également par cette déclaration. Alors ce qu'il faut dire, c'est que la déclaration annuelle des revenus concerne toute personne physique disposant d'un revenu ayant un domicile fiscal au Cameroun, quelle que soit leur source, qu'elle soit de source camerounaise, sous réserve de conventions fiscales internationales visant à éviter la double imposition. Les Camerounais de la diaspora sont concernés lorsqu'ils bénéficient des revenus tirés des activités réalisées au Cameroun. À titre d'illustration, je voudrais prendre l'exemple d'un Camerounais de la diaspora qui dispose d'un immeuble au Cameroun et qui bénéficie de revenus locatifs au titre de cette activité. Et ces Camerounais-là ont l'obligation de déclarer ces revenus tirés de l'exploitation de ces activités au Cameroun, qu'ils soient résidents ou pas.
Quels sont les revenus visés dans le cadre de la loi de finances?
Les revenus visés par cette opération sont les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères. Alors pour ce qui concerne les salaires, il s'agit des salariés du secteur public, secteur parapublic, secteur privé, des revenus fonciers. Il s'agit également des revenus provenant de plus-values non professionnelles. Bref, la déclaration annuelle des revenus des particuliers concerne tout revenu passif. Le revenu passif étant ici ce revenu qui se distingue par l'absence d'un lien direct avec une activité professionnelle. Il découle en fait de la détention d'un droit ou de l'exploitation d'un patrimoine.
L'administration fiscale brandit une panoplie de sanctions à l'encontre des contribuables réfractaires. Quel est le régime de sanctions mis en place pour amener les uns et les autres à souscrire à ce devoir citoyen?
Comme vous-même vous l'indiquez, il n'y a pas d'obligation sans régime de sanctions. La déclaration de revenus est une obligation légale et lorsqu'on n'a pas respecté la loi, on est naturellement exposé aux sanctions prévues en la matière. Alors pour ce qui concerne la déclaration annuelle des revenus des particuliers, nous avons deux types de sanctions. On a les sanctions pécuniaires, le paiement de 10% par mois de retard sans excéder 30% de l'impôt dû en cas de déclaration tardive. Nous
avons ce qui veut dire quoi concrètement?
Ce qui signifie que pour le contribuable qui s'est abstenu de déclarer, l'administration fiscale elle-même se chargera de le faire à sa place. En ce moment-là, la déclaration sera faite sur la base des éléments à la disposition de l'administration fiscale. Et le contribuable fera dans ce cas l'objet d'une taxation d'office et les impôts dus seront assortis d'une pénalité de 100%. Dès lors qu'une obligation devient légale et qu'elle n'a pas été respectée, le législateur a prévu des sanctions pour amener les citoyens à se conformer à la loi. Ça, c'est pour ce qui concerne donc les sanctions pécuniaires. Maintenant, s'agissant des sanctions particulières, nous avons le retrait du fichier actif des contribuables de la gestion générale des impôts. Si vous êtes défaillant, si vous n'avez pas respecté cette obligation, la gestion générale des impôts, après mise en demeure, vous retirera purement et simplement du fichier des contribuables actifs. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que vous ne serez plus en capacité d'obtenir les documents fiscaux, notamment la déclaration de conformité fiscale qui apparaît aujourd'hui comme un document indispensable, nécessaire pour l'exécution de diverses activités.
Les salariés sont très exposés dans ce cas?
Les salariés ne sont pas plus exposés que tous les autres citoyens. Ces sanctions s'appliquent exactement de la même manière, autant pour les salariés que pour les autres contribuables. Il n'y a pas que les salariés, par exemple, qui sollicitent les attestations de conformité fiscale nécessaires pour l'obtention des visas. Il n'y a pas que les salariés qui ont besoin d'ouvrir un compte bancaire, parce que l'attestation de conformité fiscale est aujourd'hui exigée par les banques lorsque vous sollicitez l'ouverture d'un compte bancaire.
Permettez-moi à présent, Madame le chef de centre, de sonder le bilan de la campagne de déclaration 2024. Qu'est-ce qu'il en est? Vous êtes satisfaite?
On peut dire que nous avons obtenu des résultats satisfaisants en dépit des petites difficultés qui ont émaillé cette première campagne. Donc, pour ce qui concerne ma circonscription fiscale, nous attendions à peu près 343 000 contribuables. Nous avons enregistré 214 000 déclarations pour des recettes d'un peu plus de 2 milliards. Pour une première campagne, nous pensons que l'administration fiscale a atteint ses objectifs.
L'on vous sait en pleine campagne de sensibilisation. Quelles sont vos perspectives pour 2025?
Nous voulons consolider les acquis de 2024. On a observé un engouement des déclarations. Plus de 50% des contribuables attendus ont répondu présent. Donc pour nous, c'est un signe que la campagne s'est bien déroulée et que les Camerounais sont disposés à s'acquitter de cette obligation déclarative. Nous allons intensifier la campagne autour de cette réforme-là et nous allons capaciter notre plateforme. La principale difficulté que nous avons rencontrée, c'était effectivement les difficultés de déclaration, la saturation de notre plateforme. En principe, c'est une plateforme qui a été conçue pour recevoir jusqu'ici les déclarations des professionnels. Avec la restauration de l'obligation des particuliers qui sont beaucoup plus nombreux, la Direction générale des impôts les avait évalués en 2024 à un peu plus de 2 millions. Dès lors que le système devait recevoir et les déclarations des professionnels et celles de ces particuliers beaucoup plus nombreux, on a donc observé cette saturation. Laquelle saturation elle-même a été accentuée par les retardataires. La Direction générale des impôts travaille à capaciter ces dispositifs de déclaration pour prévenir ces risques-là de saturation. Le législateur a séquencé les délais de déclaration pour l'exercice 2025. La loi de finances de l'exercice 2025 a prévu que la déclaration annuelle se fasse de manière progressive, ainsi qu'il suit. Au 31 juillet, nous attendons les déclarations des personnalités, les salariés du secteur public et parapublic. Le 30 septembre, des salariés du secteur privé seront attendus. Et enfin, pour les autres particuliers, l'échéance a été fixée au 30 octobre 2025.
En résumé, la déclaration annuel des revenus est une opération désormais incontournable.
Florence, c'est une obligation légale. Tous les citoyens doivent déclarer leurs revenus, du moins pour ceux qui en disposent. C'est une nécessité pour l'État qui a besoin de ressources pour faire face à ces charges qui sont de plus en plus croissantes.
Dimanche midi recevait ce dimanche Emeline Bihina, chef de centre régional des impôts du Centre 1. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie, Florence.
Bon dimanche.
Bon dimanche à vous.
Dimanche midi, place au regard d'experts.
Fin de parcours, du moins on l'espère, pour les travailleurs intermittents et autres absentéistes de la fonction publique camerounaise. Dès le 1er janvier 2025, la nouvelle application informatique dénommée Aigle atteint la plénitude de ses fonctionnalités pour un assainissement intégral et définitif du fichier solde de l'État. Le dispositif devrait permettre à l'État de réaliser des économies substantielles. Les experts de regard croisé y croient. Ils estiment cependant que le nouveau dispositif informatique doit être accompagné d'une volonté plus marquée des uns et des autres pour de nouvelles avancées. Sardi Lawane, bonjour. Je vous laisse en compagnie de vos invités.
Bonjour Florence. Ce dimanche, nous sommes en compagnie du professeur Roger Atsa Etundi, expert en transformation digitale. Il est également l'ancien coordonnateur de l'assainissement du fichier solde de l'État à la fonction publique. Bonjour Roger Atsa Etundi.
Bonjour.
Quand je dis que vous êtes le père du CIGPES, je n'exagère pas.
C'est exactement cela. En 2005, nous avons trouvé cette application qui avait été développée et bien, qui avait beaucoup de soucis. Et nous l'avons prise en main. On l'a complètement développée et déployée dans toutes les administrations camerounaises.
Mohamadou Mansour, bonjour.
Bonjour, monsieur Sardi Lawane.
Vous êtes un expert en management et votre regard sur l'environnement de travail et la productivité nous sera utile. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Roger Atsa Etundi, l'assainissement du fichier solde de l'État est une notion qui revient constamment dans le lexique de la fonction publique au Cameroun, et cela depuis des années déjà. Que cherche-t-on à obtenir exactement?
Ça veut tout simplement dire que l'État n'arrive pas à maîtriser les données relatives à ses ressources humaines. Parce que si les données ne sont pas maîtrisées, on ne peut pas maîtriser les effectifs au plan qualitatif, au plan quantitatif. Et in fine, on ne peut pas maîtriser les effectifs et la masse salariale. Et c'est dire en réalité que quelle que soit l'application informatique qu'on mettra à la disposition de l'État du Cameroun, tant que les données ne sont pas maîtrisées, on n'atteindra jamais les objectifs, à savoir la maîtrise des effectifs et la masse salariale. Et ce que j'ai dit là depuis des années, aujourd'hui, prouve quand même un élément qui vient d'étayer. Madame la ministre des enseignements secondaires n'a pas besoin de recourir à une quelconque application pour déceler les milliers d'agents publics qui étaient en divagation et qui émargeaient au budget de l'État. Il faut comprendre que maîtriser les effectifs et la masse salariale au Cameroun, ce n'est pas un problème logiciel, c'est un problème de gestion de ressources humaines.
Mohamadou Mansour, comment maîtrise-t-on les effectifs?
La question de la maîtrise des effectifs, surtout dans l'administration publique camerounaise, renvoie à un phénomène très compliqué de la gestion des ressources humaines des administrations publiques à travers le monde tout court. Au Cameroun, cette gestion est d'autant plus difficile que, il faut le relever, l'État a un rôle social. Donc il y a des recrutements qui sont faits, il y a la gestion de la carrière qui va jusqu'à son aboutissement qui est la retraite. Et c'est l'occasion de le dire, nous avons souvent des fonctionnaires en déshérence. Donc la maîtrise des effectifs de l'administration publique passe effectivement par la mise en place d'une application non seulement maîtrisée mais densifiée.
Sans trahir la pensée du professeur Atsa, c'est d'ailleurs un peu ce que le professeur semble dire. C'est-à-dire qu'on a beau avoir tous les meilleurs logiciels du monde, si derrière cela, il n'y a pas un management des ressources humaines, une stratégie pour mettre les gens au travail, ça ne pourrait pas marcher.
La question du management des ressources humaines est bien plus complexe que la présence effective au poste, parce qu'il y a la question du temps de travail, il y a la question de la présence effective au poste. Aujourd'hui, dans certains pays, bien que le Covid soit passé, ils ont intégré le télétravail. Le télétravail permet aux gens de ne pas être présents à leur poste de travail, mais qui sont suivis et évalués, peu importe l'endroit à partir duquel ils exercent leurs activités professionnelles. Donc, il n'y a pas que la présence effective au poste. Dans notre système, la présence effective au poste est un indicateur majeur de travail.
D'accord.
Derrière tout ça, il faudrait une grande volonté managériale qui devrait s'appuyer sur la communication efficace.
Roger Atsa, c'est étonnant de la part de quelqu'un qui est dans le monde de l'informatique, qui dit qu'au-delà du système informatique, c'est les hommes qu'il faut d'abord impacter. Le management des ressources humaines, comment faudrait-il déclencher cette stratégie pour que nous ayons dans nos fichiers des gens effectivement au travail et qui sont productifs?
Je voudrais déjà rappeler qu'au niveau du ministère des enseignements secondaires, on n'a pas eu besoin de toute cette logistique technologique pour déceler des milliers de fonctionnaires qui étaient en divagation et qui est margé au budget de l'État. Voilà une procédure qu'il faut adopter pour maîtriser les effectifs et la masse salariale.
Et quelle était cette procédure?
Il faut que chacun déclare les effectifs qui travaillent sous son autorité. Et puis, je voudrais faire une nuance parce que M. Massourou parle de télétravail. Tout cela est pris en compte dans la gestion des ressources humaines de l'État. Mais comment on peut donner un travail à quelqu'un? Vous êtes affecté dans un lycée et vous êtes au Canada. Mais comment vous allez dispenser le cours au lycée de Maroua alors que vous êtes au Canada? Ça ne marche pas. Parce que nous devons en réalité soigner le mal. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que certains enseignants se faisaient remplacer par leurs copains avec la complicité des chefs d'établissement. Voilà la réalité. Donc chacun fasse son travail. Tant qu'on n'aura pas les bonnes données, quelle que soit l'application informatique qu'on mettra à disposition au niveau du Cameroun, on ne va pas maîtriser les effectifs et la masse salariale. C'est quelque chose qui est clair.
Mamadou Mansourou, l'équation ressources humaines revient à chaque fois dans les propos des uns et des autres. Pour mettre les bonnes données à la disposition du système EIC, qu'est-ce qu'il faut?
Pour mettre les bonnes données, il faut de très bonnes personnes. Et avoir de très bonnes personnes, c'est dire qu'il faut qu'il y ait une synchronisation d'action entre le top management de chaque administration et le dernier agent public. La question de la responsabilité personnelle qui va aboutir à la responsabilité collective doit être suffisamment élaborée. Le professeur Atsa vient de le dire, dans certaines administrations, je viens de l'entendre, il y a des enseignants qui divaguent et que d'autres les protègent. Ça veut dire qu'il y a une coaction négative, destructrice de l'administration publique. Ça peut s'entendre du fait que, à partir du recrutement, il y a probablement un problème qui se pose, la qualité des agents recrutés, mais également la gestion de leur carrière. Dès qu'on réussit à bien organiser, à bien structurer et à définir clairement la responsabilité des uns et des autres, je pense que l'application qui sera mise en place sera la meilleure.
Professeur Rassa, généralement, ceux qui ne viennent pas au travail mais perçoivent un salaire se livrent à d'autres activités qu'ils estiment plus lucratives que celles pour lesquelles ils sont payés par l'État.
Oui, il faut dire que l'État a du pain sur la planche. Il faut trouver un juste milieu entre la rémunération des agents publics à la fin du mois et le niveau de vie des Camerounais. Je crois qu'en réalité, voilà le problème. Voilà pourquoi à un moment, les agents publics, ils s'enrôlent. Et après un certain temps, ils n'arrivent pas à concilier leurs besoins de tous les jours avec le salaire qu'ils reçoivent à la fin du mois. Ils sont donc obligés de chercher ailleurs. Et c'est ça qui justifie...
Mais ils vont chercher ailleurs sans se désengager vis-à-vis de l'État. Voilà. Et grèvent le budget de l'État.
Et grèvent sur le budget de l'État. Voilà la réalité. Et maintenant, pour les contrôler, il y a la responsabilité. Il y a des instruments juridiques qui sont au Cameroun qu'ils n'ont pas appliqués.
Il y a beaucoup de responsables qui couvrent leurs collaborateurs.
Bien sûr, ça c'est clair. Aller dans les administrations, poser la question, combien d'agents publics sont sous votre autorité. Posez la question au directeur. Je ne crois pas que tous vont vous donner la bonne réponse. Je parle escalité parce que j'ai été responsable de l'assainissement du fichier sur les personnels de l'État, donc je sais de quoi je parle. Ça, c'est les réalités. Il faut connaître les problèmes pour les résoudre. Et ensuite, il y a un autre problème qu'il faut résoudre. Lorsqu'on parle de la responsabilité, on ne saurait payer les salaires des agents publics d'une administration sans impliquer l'administration elle-même. En réalité, nous devons donc passer au mandatement de la solde.
C'est-à-dire
qu'avant de passer au paiement des salaires, le ministère des Finances doit envoyer le fichier solde consolidé de chaque administration. Est-ce que chaque administration valide? Parce que chaque administration est censée connaître les agents publics qui travaillent sous son autorité. Qu'on applique ça dès janvier, avec déjà la mise en place de règles, qu'on demande désormais, avant de procéder au paiement des salaires le 25, qu'on donne une à deux semaines aux administrations. On envoie le fichier consolidé des salaires. Qu'on envoie ça aux administrations et que les administrations valident. Vous allez voir.
Mouamadou Mansourou, la responsabilité des supérieurs est engagée. Il y a des responsables d'administration qui couvrent les errements de leurs collaborateurs.
Dans ce que vous dites, je peux comprendre. Hein, je peux comprendre qu'il y a des responsables qui couvrent leurs collaborateurs.
Des collaborateurs partis peut-être sous d'autres cieux pour trouver des conditions plus clémentes.
Oui, ça peut se comprendre.
Mais ça, c'est désengagé vis-à-vis de l'État et continue de percevoir de l'argent qui aurait pu servir à autre chose.
J'ai eu l'occasion de voir un communiqué circuler dans les réseaux sociaux où un ministre appelait certains de ses collaborateurs à revenir sous délai. Parmi ces gens qui avaient été appelés, j'ai eu une connaissance qui a clairement fait savoir que lui ne pourrait pas revenir parce qu'il est au Canada. Et je lui ai posé la question de savoir pourquoi il continue à émarger dans le budget de l'État. La réponse qu'il me donne, c'est que c'est tout le monde qui procède de la sorte. Voilà là où se trouve le problème. Le système de contrôle doit être plus minutieux qu'une simple application.
Roger Atsaitouli, on est tous d'accord que l'assainissement du fichier solde permet à l'État de pouvoir faire des économies parce qu'il y a beaucoup de déperditions liées justement aux gens qui ne travaillent pas mais qui perçoivent un salaire. On est également d'accord que pour qu'un logiciel comme Aigle puisse être efficace, il va falloir lui donner des informations fiables et qu'il est important que ces informations soient collectées à la base par des personnes responsables et conscientes du fait qu'il faut mettre à disposition des décideurs, des données qui soient justes.
Vous avez exactement résumé ce que le Camerounais lambda attend de la maîtrise des effectifs de la masse salariale. Il faut des données fiables. Et ce sont ces données fiables-là qui doivent donc être enrôlées dans la nouvelle application. Et nous louons déjà les efforts de l'État quant à la mise en place de cette application. C'est qu'il y a encore des modules à faire parce que pour contrôler la présence effective à un poste, il faut ajouter des nouvelles fonctionnalités à cette application. En l'occurrence, les bornes biométriques. Ça veut dire que vous arrivez sur la CRTV chaque matin, et c'était même une instruction de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, contrôle de présence biométrique des agents publics. Vous arrivez, vous vous faites enrôler sur un équipement qui est là, et cette information est répercutée en temps réel dans la base de données centrale des agents publics. Ce n'est que ceux qui se sont fait enrôler au courant du mois qui vont percevoir le salaire.
C'est-à-dire que ça marque l'heure d'arrivée
ça
et l'heure de départ.
Ça marque l'heure d'arrivée et l'heure de départ. Ça ne va pas complètement régler le problème, mais tous ceux qui sont hors du Cameroun ne seront pas enrôlés. Maintenant, ceux qui sont permissionnaires, ils ont eu des ordres d'émission, le système les prend automatiquement en compte. Il faudrait qu'avant de procéder au paiement des salaires, que le premier responsable soit le chef du département ministériel. Qui gère les ressources humaines là doit poser sa signature pour dire je reconnais ces gens au plan quantitatif, au plan qualitatif, donc je valide donc le salaire.
Professeur Atsaitoundi, merci d'avoir participé à Regard Croisé ce dimanche.
C'est moi qui vous remercie et merci à tous les auditeurs de la CIAT.
Mohamed Mansourou, merci également à vous.
Je vous remercie infiniment et bon dimanche, bonne fin d'année à toute la République.
On va remettre l'antenne à Florence Mekeu pour la suite de dimanche midi. Bonne année 2025 à tous.
Merci Sardi Lawan. Bon dimanche également à tous vos invités. Mesdames, messieurs, c'est l'heure du JDM. Une présentation de Sylvain Yangman. Bonjour Sylvain.
Bonjour Florence Mekeu. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au JDM de ce dimanche 29 décembre 2024 sur la CRTV Leti. Crivi, cité de la sidérurgie moderne en zone CEMAC, le chef-lieu du département de l'océan au sud abrite demain la cérémonie de pose de la première pierre des travaux de construction du complexe sidérurgique moderne. Et c'est le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, qui présidera au nom du président de la République, Paul Biya, cette cérémonie à la place portuaire. L'Afrique du Sud a la deuxième place mondiale des meilleurs aéroports. Classement dévoilé par AirHelp. En sport, football, MTN Elite One, la cinquième journée se dispute dès aujourd'hui à Garoua. Bafoussa Membouda, le co-leader canon sportif de Yaoundé, sera face à Dynamo de Douala demain à Yaoundé. Bienvenue aux nouvelles. Le premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr. Joseph John Goutte, présidera au nom du président de la République, son Excellence Paul Biya, la cérémonie de pose de la première pierre des travaux de construction du complexe sidérurgique moderne de Kribi, prévu donc demain 30 décembre à partir de 10h. C'est la quintessence d'un communiqué de presse signé du directeur de cabinet des services du premier ministre, Balungeli Confiance Ebune. La cérémonie de pose de la première pierre du complexe sidérurgique moderne de Kribi dans la région du Sud se tient donc demain. L'infrastructure qui sortira des fonds baptismaux dans le périmètre portuaire de Kribi va transformer les minerais de fer provenant de l'exploitation aux minières de Nabeba au Congo et Mbalama l'Est au Cameroun. Une avancée dans la valorisation de la matière première en zone CEMAC. Dieudonné Ngoah à Kribi.
Ce complexe qui sera construit dans le périmètre portuaire de Kribi aura pour rôle de recevoir les minerais de fer provenant de Mbalama Nabela. La poudre de fer transformée dans ce complexe sera exportée, et avec cette grande particularité que 15% de cette production seront transformées en acier sur place pour l'approvisionnement du marché local, notamment toutes ces industries du secteur métallurgique au Cameroun. Ce 30 décembre 2024, le premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr. Dion Goutte, va procéder à la pose de la première pierre du complexe sidérurgique moderne de Kribi, une étape capitale pour le projet d'exploitation Mbalama Nabela qui vient valoriser la matière première locale, permettre la réduction des importations de l'acier au Cameroun, attirer également les investisseurs dans notre pays. À Kribi, le premier ministre chef du gouvernement va également recevoir les équipements de production du gisement de fer de Mbalama Nabela. Kribi, Dieudonné Ngoah, CRTV.
De nombreuses retombées envisagées de ce grand projet intégrateur en zone CEMAC, à savoir le projet d'exploitation du fer de Nabeba au Congo et Mbalama au Cameroun. Voici les explications du directeur de l'administration et des relations publiques du consortium en charge de la réalisation de ce projet, Patrick Tchoua, au micro de Prisca Ndjeng-Mungolo.
La profonde gratitude de l'ensemble des équipes mobilisées pour la réussite de ce projet à l'endroit de notre État, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, et son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Ce gigantesque projet, pour le bien des populations de la CEMAC, transfrontalier qui comporte, du point de vue des échanges, de la circulation des hommes et des biens, il y a une voie ferrée de près de 700 km qui relie les deux pays, un terminal minéral à Kribi pour le traitement des cargaisons de minerai de fer à l'export, puis on a la construction d'un complexe hydrologique à Kribi en vue de la transformation de 15% de production de fer issue de ces différentes mines, ce qui fera une production pondérée à plus de 3 millions de tonnes d'acier par an, permettant au passage d'ajuster les cotations du fer sur le marché camerounais de la CEBAP. On aura 20 000 emplois directs en phase de production, 12 500 milliards de francs CFA de retombées et pratiquement le triple pour le Congo, sans oublier la royalité sur le passage du minerai congolais sur le sol camerounais. Le projet d'exploitation du minerai de fer de Mbalama et Nabeba offre à la sous-région l'opportunité de se hisser dans le top 5 des plus grands producteurs de fer au monde.
Création d'emplois, développement des compétences et croissance économique locale, entre autres secteurs qui seront dynamisés suite à l'implantation du complexe sidérurgique de Kribi dans le département de l'Océan. On en parle avec Jeff Tejewel à Kribi.
L'une des retombées les plus attendues du projet est la création d'emplois. Selon les autorités, la construction du complexe sidérurgique devra générer plusieurs milliers de postes. Guy Emmanuel Sabikanda, maire de la ville de Kribi.
En termes d'emplois, c'est près de 2000 emplois directs et indirects, c'est énorme.
L'implantation du complexe sidérurgique à Kribi va permettre de stimuler la croissance locale à travers le développement des infrastructures telles que des routes, d'électricité, le renforcement de la compétitivité du port autonome de Kribi, afin de diversifier les secteurs économiques et de générer des revenus supplémentaires. Ce projet pour la formation des jeunes Camerounais aux métiers techniques.
Ça mettrait sur les rails de l'industrie. Transformer partie de notre fer sur place, c'est ce que nous voulons.
Avec l'installation du complexe sidérurgique à Kribi, l'industrie de la construction et d'autres secteurs vont permettre au Cameroun de réduire sa dépendance des importations des produits sidérurgiques et métallurgiques, de renforcer sa souveraineté industrielle et la balance commerciale du pays. Kribi, Jeff Tenjewel, CRTV.
Le complexe de sidérurgie moderne au port autonome de Kribi est un acquis qui garantit le bien-être des populations de ce département, berceau des projets structurants. La gratitude des fils de l'océan. Un reportage de Ghislaine Aléné de CRTV Sud.
À quelques heures de la pose de la première pierre du complexe de sidérurgie au port autonome de Kribi, le projet structurant charrie d'ores et déjà de nombreux espoirs pour les fils et filles de l'océan. Jean-Pierre Sala.
Merci, Monsieur le Président. Ce projet vient apporter des facilités d'emploi, de développement, de visibilité.
Et c'est à raison que leur gratitude est débordante. Sa Majesté Roger Mokoundé et Maurice Eyomedjanga, fils de l'océan.
C'est une très bonne nouvelle, pas seulement pour les jeunes, mais pour les familles également. Parce que le jeune qui travaille, il a des ressources qui lui permettent d'entretenir sa famille.
C'est vraiment un projet catalyseur et nous, la jeunesse, nous sommes déterminés pour accélérer la croissance économique de notre pays.
Tous pensent désormais à poser les garde-fous pour une meilleure appropriation de ce complexe de sidérurgie au port autonome de Kribi. Kribi, Ghislaine Aléné, CRTV.
Vous écoutez la CRTV, vous écoutez le JDM. Le ministre des Enseignements secondaires prend part à l'atelier de validation de la feuille de route de mise en œuvre de la Safe School Declaration à l'hôtel Hilton de Yaoundé demain à partir de 10h. Au-delà de nos frontières, l'Afrique du Sud se hisse à la deuxième place mondiale des meilleurs aéroports. Classement effectué et dévoilé par AirHelp. L'étude a passé à la loupe 239 aéroports de 69 pays sur la base de trois critères, notamment la ponctualité des vols, les avis des clients, plus l'expérience en matière de restauration et shopping. En sport, football, MTN Elite One, la cinquième journée se dispute dès ce dimanche. Ces rencontres sont au programme à Garoua. Deux matchs à suivre, 13h30 au Coton Sport, Aigle Royal du Mongo et dès 15h30, Gazelle du Nord contre Ast de Douala. À Bafoussam, Panthère, reçoyons Sport Academy de Bamenda. En Bouddha, dès 13h30, Bambuto s'affronte au Fauvazur et à 15h30, PWD accueille Victoria United. Le co-leader canon sportif de Yaoundé sera face à Dynamo de Douala demain à l'annexe 1 de l'Omnisport de Yaoundé. Les dernières rencontres vont se jouer mardi prochain à l'annexe 1 de l'Omnisport de Yaoundé. AS Fortuna contre Union Sportive de Douala et Colombe sera face à Stade Renard de Melon. Toujours en sport, Fédération Camerounaise de Rugby, fin de la normalisation. Un nouvel exécutif aux commandes, Maître Patrice Monté est le nouveau président de l'instance. Il a été élu hier par acclamation au cours d'une assemblée générale élective à Yaoundé. C'était le JDM. Dimanche et midi se poursuit sous la conduite de Florence Mc. Madame, Monsieur, bon dimanche et excellente semaine à venir.
Dimanche midi.
Dimanche midi. Avec mon voisin, capture des faits de société sous forme d'éphémérides.
Nos deux voisins se posent des questions sur les convenances que respectent les Camerounais. Il y a comme une unanime décision de nos compatriotes à ne s'accommoder d'aucune règle, à ne respecter aucune convenance, sauf quand elle les arrange. Ils parlent aussi de l'année 2024, à travers leur rétroviseur qui, on l'imagine, est quelque peu mal ajusté. Voici Conversation avec mon voisin, une chronique de Valérie Dicos Oumarou.
Le mot convenance peut avoir plusieurs définitions, mais nous en choisissons une aujourd'hui, celle qui définit la convenance comme une règle qui est communément acceptée par la société, généralement de façon tacite. Autrement dit, une communauté d'individus adopte des règles, des usages, dans le but de faciliter les interactions, de les rendre agréables. Tenez par exemple, une convenance mondialement répandue veut que les hommes tiennent la porte pour laisser passer les dames avant eux. Et il y en a plusieurs comme ça. Je vous parle de convenances parce que, vous l'imaginez bien, je me demande quelles sont les nôtres au Cameroun. On dirait que nous avons, et de façon tacite, décidé que nous ne respectons les convenances qu'au gré de nos humeurs. Une convenance quasi universelle veut que l'on formule, par exemple, des vœux les uns pour les autres en fin d'année. Mais une bonne frange d'entre nous rivalise de formules sur les réseaux sociaux pour rejeter, menacer tous ceux qui oseront leur souhaiter bonne année, les traitant d'avance de tous les noms. Du coup, mon voisin me prescrit la prudence et me suggère de jeter un regard sur le rétroviseur de 2024. Lundi, il commence justement par les réseaux sociaux. Nous en avons fait des rings de boxe, des octogones de MMA où la violence est transportée avec des mots d'une méchanceté incroyable. Nous réglons des comptes sur les réseaux sociaux. Nous n'hésitons même pas à tuer. On y annonce des morts de gens qui, bon pied bon œil, apprennent leur propre décès en lisant les réseaux sociaux. Quand les autres font des réseaux sociaux des outils de solidarité, de soutien et d'amour, nous y montrons notre éducation questionnable. Mardi, je me souviens que mon voisin et moi n'avons eu de cesse de parler de la salubrité dans nos grandes villes au point de perdre espoir. Nous voici en train d'achever l'année quasiment dans la poubelle. Est-il possible de s'habituer à la poubelle? Mon voisin est catégorique, c'est non. La saleté est dans le rétroviseur, mais plus encore devant nous. Mercredi, mon voisin se prend à rêver. Il rêve de routes et d'autoroutes. Je le ramène rapidement sur terre pour lui demander de regarder notre fameux rétroviseur. Il est rempli de nids de poules et de pièges à éléphants. Nous avons appris que certaines de ces routes sont arrivées en fin de vie. Oui, quand on construit une route, on sait quand elle sera périmée. Notre problème, c'est que la date de péremption nous surprend presque toujours et sert d'explication à son mauvais état. Jeudi, voilà sur le rétroviseur de 2024 toutes ces usines et que du faux, notamment des aliments, des boissons et que sais-je encore. Des entrepreneurs du poison qui, sans aucun scrupule, n'ont aucune considération pour notre santé. Ils sont dans le rétroviseur, mais également devant nous. Pour gagner de l'argent, hier, aujourd'hui ou demain, il y en aura toujours, qui sont prêts à tout. Vendredi, je dis à mon voisin que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et à l'entendre parler depuis lundi, j'ai l'impression qu'il se décourage. Alors j'essaye de raviver un peu d'optimisme en lui et de lui montrer cette lueur au bout du tunnel. À mon regard, il comprend que je refuse tout débat sur la partie du tunnel que nous apercevons. Il voulait déjà me demander si c'est l'entrée ou la sortie. Votre semaine a sans doute été meilleure que la nôtre. Bonne année. Et à dimanche prochain.
À dimanche prochain.
Dimanche midi, le dossier de la rédaction.
Retour à la vie communautaire. Pour 708 ex-combattants et associés de Boko Haram, récemment sortis du maquis, parmi eux, 429 enfants. Tous ont réintégré
espérant une rédemption et une vie nouvelle.
J'ai passé là, j'ai venu la nuit. Parce que ma mère m'a appelé, elle a dit que viens. C'est moi, j'étais couché là. Tu ne restais pas là-bas. C'est ça que j'ai compris comme ça. J'ai sorti. La nuit, j'ai venu à. Deux jours, je suis à Sandawadjiri. J'ai resté une semaine. J'ai venu à Kolfatan. Une semaine, on est venu à Moura, au forest de Moura.
Pensionnaire du centre de désarmement, démobilisation et réintégration du Méry depuis 2021, aujourd'hui, pleinement.
Parce que la vie d'ici, là, il dépasse pas. Ici, je dors bien, il y a la sécurité, il y a tout. Je veux vivre bien avec les gens. Que je venais. Les chefs, ils ont déjà dit, nous, avec les gens de communauté, chaque jour, j'ai dit grand merci.
L'histoire de moi, de nombreux jeux, ici dans la région, recrutés sous la concrète, parfois poussés par le désespoir et l'oisiveté à commettre des erreurs. Pour ces jeunes, aujourd'hui repentis, le chemin de la réintégration est semé d'embûches, mais pas impraticable.
Dans ce centre ici, j'ai pris beaucoup de choses, mais j'ai fait un peu école ici. J'ai mis ça dans la caisse, comme ça, 500 000 encore. Dans les boutiques, j'ai pris les farines, le riz, le sucre, les cuivres, les sel, les biscuits, les
bâtons. La communauté d'accueil s'est révélée moins compliquée qu'il ne le pensait. Les populations locales font preuve de compassion et pardonnent, malgré les blessures du passé.
Il est avec les jeunes, avec les femmes, pas de problème. Donc s'il y a plusieurs gens comme ça, ça nous rend satisfaction.
Ils sont là partout, hein. Il y a un qui est marié, nos sœurs. Ils ont déjà donné un enfant. Maintenant même, leur départ là, de leur côté, ils ne veulent pas partir. La population aussi, ils ne veulent pas qu'ils partent.
Une réintégration des repentis, rendue possible grâce au programme de désarmement, démobilisation et réintégration, soutenu par le gouvernement et des partenaires internationaux. Formation professionnelle et génératrice de revenus, des ponts sont jetés entre les ex-associés et les communautés locales. Oumar Bichaïr, coordonnateur régional du comité de désarmement, démobilisation et réintégration de Maroua.
Les centres DDR n'ont pas vocation à retenir indéfiniment les ex-associés ou ex-combattants qui déposent les armes. Et donc, nous avons procédé dans le cadre de l'apprentissage aux petits métiers, la formation, la couture pour les femmes, le petit commerce, la menuiserie, l'organique, l'agriculture, qui est la principale activité. Pensionnaires. Entre parenthèses, cette année, ils ont cultivé sur notre espace en mairie et ils ont récolté des centaines de sacs de miel. Donc, c'est une réintégration qui a véritablement commencé. Ces deux événements vont à coup sûr stimuler ceux qui hésitent encore de sortir de la brousse pour venir vers les centres DDR.
Cependant, le processus n'est pas sans défi. Godola Avaï, chef traditionnel de deuxième degré de mairie.
Au premier temps, de côté des populations mairies, disant que comment vous avez accepté d'accueillir les gens qui viennent nous tuer avec les chefs du troisième degré, quelques doyens, je multiplie la réunion tous les jours pour dire que non, ce sont nos frères, il n'y aura pas de problème. Et jusqu'à aujourd'hui, on est devenus frères, sœurs. On partage ensemble dans le mosquée, on prie ensemble dans l'église, on est au marché aussi, on est ensemble.
Yaya Ali, sous-préfet de mairie.
Nous avons eu à plusieurs occasions à échanger avec certains parmi eux qui ont hâte que le processus s'est bien déroulé. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas enregistré un incident majeur. Les populations ont fait leur devoir parce qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation. Quand ils sont arrivés, nous avons travaillé, nous avons demandé aux populations de bien les accueillir. Nous avons constaté que les ex-combattants étaient utiles. Ils aidaient la communauté dans les petits jobs. C'est des gens déterminés à regagner la société.
À Méry et Moura, dans la région de l'extrême nord, le vivre ensemble entre ex-combattants et associés de Boko Haram et communautés d'accueil continue de prendre forme, lentement mais sûrement. Les autorités locales insistent sur l'importance de l'éducation et du dialogue intercommunautaire pour définitivement apaiser les tensions.
Dimanche midi, l'invité de la rédaction.
Dimanche midi, reçoit ce dimanche en posture d'invité Monsieur Fayengo Francis, coordonnateur national du CNDDR, le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Monsieur le coordonnateur national, bonjour.
Bonjour et merci beaucoup. Je suis heureux d'être encore en présence de dimanche midi pour qu'ensemble on puisse échanger sur le processus DDR au Cameroun.
Vous êtes le bienvenu, monsieur le coordonnateur national. Vous comptez à votre actif 4075 combattants répartis en 6 ans. Êtes-vous satisfait des résultats obtenus?
Je suis très satisfait des résultats obtenus parce que dès le départ, personne ne croyait qu'on allait même avoir un seul ex-combattant. Même nos proches amis nous disaient « vous n'aurez rien ». Et si on a 5000 aujourd'hui, presque 5000, je crois qu'on est satisfait. Surtout que nous savons que dans la brousse, il n'y a plus beaucoup de combattants.
Avez-vous des nouvelles des premiers repentis? Les ex-combattants qui ont regagné les communautés sont-ils suivis et tracés par vos équipes?
Tout au début de notre processus, il y a eu une centaine d'ex-combattants qui sont partis du centre, qui ont été pris en charge par une grande structure de l'État. Nous avons des relations avec eux, nous avons leurs informations. Ils sont éparpillés partout sur le territoire national, puisque c'est des agents de l'État qui travaillent. Mais nous avons...
Ah, il y en a qui sont recrutés dans les administrations publiques.
Dans une structure, j'ai précisé bien dans une structure importante de l'État. Donc, nous avons leurs informations. Et je voudrais vous dire que eux-mêmes, ils viennent toujours dans les centres. Ils ont des relations avec ceux qui sont restés dans les centres. Et il y a peut-être un ou deux cas qui ont décidé de rentrer définitivement dans les centres. Ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent du côté des centres.
Parmi les ex-répentis, y a-t-il des étrangers dans les rangs?
Non, nous n'avons pas des étrangers. Nous avons eu un cas isolé qui a été résolu il y a un an, qui a regagné son pays d'origine.
Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les bandes armées séparatistes cachées dans les brousses constituent une menace pour ceux qui veulent sortir des centres de désarmement. Les repentis subissent même un chantage des forces obscurantistes installées à l'étranger. Comment gérez-vous cette situation?
Premièrement, il y a les bandes armées qui sont encore repenties, surtout dans les villages, et qui mènent beaucoup d'activités néfastes, beaucoup d'activités terroristes dans ces villages-là. Ceux-là sont, je crois, suivis de très près par nos forces de sécurité et de défense. Mais de notre côté, nous continuons à œuvrer, n'est-ce pas, dans notre mission de sensibilisation, qui consiste à leur dire clairement de démissionner, de redevenir le Camerounais à part entière. Nous pensons aujourd'hui que ceux qui ne sont pas encore sortis, vraiment, je ne sais pas la décision qu'ils ont prise, mais ils ont pris une décision dangereuse. Parce que ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas suivi nos messages, qu'ils n'ont pas suivi les voies positives qui sortent partout du pays. Ça veut dire qu'ils ont décidé, n'est-ce pas, d'aller jusqu'au bout. Ceux-là sont, comme j'ai dit, suivis par les forces de sécurité et de la défense. Pour les voies qui viennent d'ailleurs, surtout de l'étranger, nous sommes heureux de constater que la propagande négative a beaucoup baissé. Parce que ce sont ceux-là qui ont instrumentalisé ces jeunes à aller dans les brousses. Ils ont dit que si vous allez au DDR, c'est pour être des prisonniers, c'est pour être tués, tout ça. Bon, vous constatez comme nous que nous n'avons pas tué des ex-combattants, nous n'avons pas emprisonné des ex-combattants. Au contraire, ils sont suivis, ils sont en santé et ils mènent leurs activités. Mais vous savez aussi comme moi que c'est des gens qui ont posé certaines... Parmi eux ont posé des actes vraiment impardonnables. Mais vous savez que la main tendue du président de la République, c'est quoi? C'est l'amnistie qu'il a donnée à ses enfants-là. Et quand nous sommes allés sur le terrain pour la première fois à Moura, on a vu ses enfants en décembre 2018. Ils étaient presque 200 à la force mixte multinationale à Moura. J'ai constaté qu'ils avaient entre 17 et 20 ans. Et quand vous considérez qu'ils sont allés fait 8 ans, dans les mains de Boko Haram. Ça veut dire qu'ils sont allés là 10 ans, 11 ans et tout cela. J'ai donc compris, n'est-ce pas, la maturité de la mesure que le chef d'État a prise pour les pardonner parce qu'il s'agissait des enfants. L'autre jour à Mora, il y a un certain Moussa qui est sorti pour parler au nom des ex-combattants, pour remercier le président de la République. Il est venu en 2017, mais quand vous regardez Moussa, il a à peine 20, 22 ans et tout ça. Ça veut dire que c'était un enfant. Je pense donc que cette propagande-là n'a pas réussi et que la main tendue du chef de l'État est réelle, elle est permanente. Et je crois que ceux qui sont à l'étranger, là, ils sont déçus par les résultats que nous avons sur le terrain.
Et parlons justement de ceux qui sont encore dans les brousses, vous vous appelez à déposer les armes, à regagner le centre. Quel est le potentiel dont dispose aujourd'hui le CNDDR pour accueillir ceux qui sont encore dans les brousses, que ce soit dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest ou de l'extrême nord?
Nous avons les centres qui peuvent prendre des milliers d'ex-combattants. S'ils sortent tous de brousse, je crois que nous n'allons plus faire autre chose pour les accueillir. Parce que je voudrais vous rappeler que le président de la République a mis en place un programme d'investissement qui consistait à créer et construire des centres à Bamenda, Boya et Mora. Il y a une semaine, nous avons réceptionné le dernier centre à Mora, un village ultramoderne.
Qu'est-ce qu'il a de particulier ce village, monsieur le coordonnateur national?
D'abord, il est construit selon les coutumes, habitudes de la région du Sahel. Donc, c'est un village dont les gens sont indépendants. Deuxièmement, on a construit les maisons comme des boucarous. C'est des maisons modernes, mais en forme de boucarous. Et en plus de ça, il y a d'autres structures de l'État, santé, centre des femmes et tout ça. Donc, c'est ça la particularité. C'est un beau village qui s'étend sur 4 hectares.
La durée du séjour est arrêtée par vos services ou alors ils peuvent y rester autant qu'ils le souhaitent
pour ce qui est des expansions. Nous souhaitons qu'ils restent là-bas éternellement parce que c'est un village moderne et ils ont des potentialités hors du village pour faire l'élevage, pour vivre comme les autres membres de la communauté. Je voudrais vous rappeler que ces gens-là sont venus pour la plupart des villages qui sont le long de la frontière, les villages que Boko Haram a détruit entièrement. Et je voudrais vous rappeler également que là où ils sont là, ce n'est pas trop loin de la frontière. Donc, ils ne se sentent pas complètement dépaysés. Nous sommes en l'heure actuelle en train de mener les actions pour qu'ils restent là-bas. Vous voulez qu'ils aillent où? Quand ils vont là-bas, chaque fois que Boko Haram traverse de manière sporadique, ils sont toujours les victimes. Donc, nous voudrons qu'ils restent là éternellement. Et nous pensons que c'est ça une étape également importante de la réintégration qui est l'étape finale de ce processus.
Et s'il vous arrivait de parler des difficultés rencontrées en 6 ans, que diriez-vous, monsieur le coordonnateur
national? La première difficulté, c'est cette propagande qui vient souvent de l'étranger. C'est ça la première difficulté. Comme je vous ai dit, on est en train de mener ça vers le point zéro. La deuxième difficulté, c'est même l'opinion nationale. Il y a des gens dans les zones de conflit qui n'ont pas saisi l'importance et la sensibilité de ce processus, qui nous disaient « Oh, vous n'allez pas réussir ». Parce que quand ils nous disent en face qu'on ne va pas réussir, vous imaginez ce qu'ils disent aux combattants qui sont en brousse. Là aussi, nous sommes en train de réussir parce que nous avons fait comprendre à ces compatriotes qu'aller vers les combattants, les demander de quitter la brousse et de ne pas aller au DDR, continue à mettre leur vie en danger parce qu'ils sont toujours les terroristes. Or, quand ils passent par les centres, ils sont amnistiés. En plus de l'amnistie, l'État les prend en charge en leur offrant, pour ceux qui sont restés à Mémé, des logements, des professions, des matériels pour s'installer sur leur propre compte.
L'agriculture, l'élevage.
À leur propre compte. Je voudrais, comme vous avez parlé de l'agriculture, dire que l'année dernière, il y a un groupe d'ex-combattants dans le village qui n'ont pas encore réintégré, qui ont récolté 400 sacs de maïs. C'est beaucoup. Je crois que quand ils seront là, ça sera nécessaire. Ils sont des plus grands villages du Cameroun. Le premier, les Amémé, c'était le jour de marché. J'ai vu pas moins de 30 à 40 camions qui chargeaient les vivres pour aller au Nigeria, au Tchad et au sud du pays. Je crois qu'ils vont s'intégrer dans ce processus-là et devenir les acteurs économiques dans la zone.
Nous sortirons par cette préoccupation, monsieur le coordonnateur national. Quelle est votre feuille de route pour les prochaines années?
Nous voulons consolider ce qu'on a déjà fait, consolider, ça veut dire que les activités qui sont menées dans les centres, nous allons les suivre, les améliorer. Deuxième chose, nous allons continuer à suivre ceux qui sont sortis. Troisième chose, nous continuons notre suivi, notre formation dans les centres avec ceux qui sont restés. On va continuer à les former pour qu'ils soient aussi, n'est-ce pas, plus indépendants qu'aujourd'hui.
Dimanche midi recevait ce dimanche M. Fayengo Francis, coordonnateur national du CNDDR, le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est à moi de vous remercier parce que vous êtes en train de faciliter mon travail parce que nous devons sensibiliser en permanence les enfants qui sont encore en brousse, sensibiliser même l'opinion publique quant à ce processus et faire adhérer tout le monde, n'est-ce pas, à l'initiative du chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya.
Je vous remercie.
Thank you.
Dimanche midi, les coulisses et la scène.
Invitation à la table de la Saint-Sylvestre. Au menu, des idées de repas savoureux et économiques et des curiosités festives concoctées par le chef Ngulu Ngulu, réputé pour ses astuces culinaires, accessibles à tous. Ambiance d'avant-soirée en attendant la grande traversée du 31 décembre. C'est dans cet élément gourmand proposé à la dégustation au four et au moulin Tatiana et Baudou.
Dans sa cuisine animée et parfumée, le chef Ngulu Ngulu propose un menu simple mais impressionnant. Il commence par une entrée fraîche et colorée, une salade tropicale.
Une salade d'à côté de moi, je veux dire, je devais l'appeler une salade tropicale à côté de moi parce que c'est tous les produits que j'ai justement à côté de moi. La tomate, le poivron. Ça permet aussi à la vinaigrette de rester stable dans son émulsion.
En plat principal, le chef a opté pour une version revisitée du poulet braisé accompagné de légumes sautés et d'un riz parfumé aux herbes de fenouil.
En plat principal, nous allons préconiser plutôt le poulet pour bien le nommer le coq. Mais étant donné que le coq est assez robuste, on va prendre soin de le pré-cuire d'abord. Il sera braisé, comme on dit, même si en cuisine nous disons grillé, disons à la savoir, c'est-à-dire avec un fond de versant, avec une petite note de poudre, naturellement du gingembre, l'oignon et si on veut une ou deux autres espèces que l'on veut y rajouter soi-même en fonction de sa fantaisie. Qu'est-ce qui va accompagner le poulet? Je préconise pour la légèreté des petits légumes glacés. Des haricots verts, des radis au marché, tant mieux parce qu'ils ne coûtent pas bien cher. Mais sinon, à la place du radis pour faire blanc, on peut très bien utiliser des pommes de terre. Maintenant, il n'y a pas de fête sans riz. Il faudrait effectivement à côté aussi prévoir du riz parce que tout le monde n'est pas petit légume. Qu'on prenne du riz parfumé, du riz basmati si on veut, ou alors le riz étuvé du Cameroun, on le trouve sur le marché. Et je propose pour que ce ne soit pas juste du riz, qu'on puisse le cuire avec des fans de fenouil.
Et pour le dessert, le chef mise sur un cake à base de bananes et aux cacahuètes. Un dessert simple, mais plein de saveurs.
À la banane, parce que c'est bien la banane de chez nous, si on a même de la chance, on risque de trouver quelques doigts de banane qu'on n'achète pas, parce qu'on a beaucoup de bananes qui traînent au marché. Il nous faut un ou deux doigts de banane, pas plus. Une poignée de mille de cacahuètes que l'on va mettre dans notre appareil de cake dont le fond est fait avec la farine de blé. Et si on peut, très bien introduire des farines comme la farine de maïs qui elle aussi a du corps quand on veut faire un gâteau.
Pour ceux qui souhaitent une alternative au gâteau, le chef recommande également un jus de foléré agrémenté de gingembre. Parfait pour accompagner la soirée jusqu'aux 12 coups de minuit.
C'est un budget, si je considère que ce n'est pas tout le monde qui va élever le poulet, qui fait à tout casser pour 4 personnes entre 11 et 12 000 francs.
Avec des idées comme celle-ci, la Saint-Sylvestre devient une fête où l'on se régale sans excès financier. Une belle manière d'entamer 2025 avec joie et sérénité.
Dimanche midi.
Dimanche midi.
Dimanche midi.
l'éternité, à nous le souvenir. Nombreux et prestigieux sont les compatriotes qui nous ont quittés en 2024. Leurs œuvres les suivent et entretiennent le souvenir des hommes et femmes qui ont marqué leur temps autant que leur génération dans leur domaine d'activité respectif. Il s'appelait Issa Hayatou, ancien président de la CAF et vice-président de la FIFA, Landry Nguemo, footballeur international à la retraite, Jean-Baptiste Bokam, ex-secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie nationale, Rabissou Bidoun, secrétaire général de la Fondation Chantal Biya, et bien d'autres encore. Mémoire de ces figures emblématiques de notre temps, l'hommage spécial de dimanche midi, dernière édition de l'année 2024. Gilles-Claude Mbon et Tundi.
Hier j'étais pour vous un père, un frère,
une mère, une sœur,
un ami, une connaissance, un illustre inconnu, un incompris.
L'objectif numéro un au niveau de la Confédération, c'est la promotion du football au niveau du continent africain. Il faut pérenniser les acquis, il faut aller au-delà de ce que nous avons fait jusqu'aujourd'hui pour pouvoir être aussi compétitif que l'UEFA, aussi compétitif que l'Amérique du Sud du point de vue résultat. Nous n'avons pas encore gagné la Coupe du Monde, tout ça. C'est des chantiers très importants que nous devons tout faire pour engager.
Son grain de voix baryton manque profondément au football africain. De 1988 à 2017, c'était la voix puissante de la Confédération africaine de football. La CAF, la FIFA et le monde ont rendu un hommage à Issa Hayatou, décédé le 8 août 2024 en France. Dans un communiqué, Patrice Motsepe, l'actuel patron de la CAF, parle de son immense contribution au développement du football en Afrique. Le passage du continent de 3 à 5 places à la Coupe du Monde, l'organisation de la première Coupe du Monde en terre africaine en 2010 en Afrique du Sud, sont quelques-uns de ses faits d'armes les plus retentissants. C'est une grosse perte, selon l'ancien chroniqueur sportif Abel Mbengue.
Je suis tombé des nues, quand bien même la fatalité était évidente. Hayatou était un homme des rigueurs. Il a gravi tous les échelons. C'est le premier et le seul président permanent de la Fédération Camerounaise de Football. Lorsqu'il fallait faire le travail, il fallait le faire. Et lorsqu'on devait être ami, il fallait être ami. L'homme était entier.
Entre octobre 2015 et février 2016, Issa Hayatou préside la FIFA, l'instance fêtière du football mondial. À sa mort, il était le président du conseil d'administration de l'Académie nationale de football. Issa Hayatou a été inhumé le 16 août dernier à Garoua, sa ville natale. Le vendredi 27 décembre 2024, la dépouille de Madame Abissou Bidoun est arrivée à Yaoundé, en provenance d'Espagne. La première dame Chantal Biya s'est rendue à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalène pour l'occasion, histoire de faire ses adieux à celle qui était jusqu'à son décès, secrétaire générale de la Fondation Chantal Biya. L'empreinte de Madame Abissou Bidoun a marqué les actions sociales et humanitaires au Cameroun.
Il y a 20 ans aujourd'hui que Madame Chantal Biya, présidente fondatrice de la fondation qui porte son nom, crée le Children First Center, qui est un centre qui accueille les enfants en difficulté et en détresse. L'objectif était d'apporter un secours aux enfants abandonnés. Après la création du centre mère et enfant, elle a constaté qu'il y avait un autre fléau qui affectait des enfants, l'abandon. Parce qu'à plusieurs reprises, des enfants ont été abandonnés à l'hôpital, au centre mère et enfant, et il fallait bien les encadrer. Et à cet effet, donc, elle a pris l'initiative de créer une structure à côté du centre mère et enfant qui permette d'encadrer ces enfants qui se retrouvent seuls, abandonnés par leurs parents.
Originaire du Mayo-Louti dans la région du Nord, elle était chargée de mission au cabinet civil de la présidence de la République. Décédée en Espagne le 18 décembre dernier, Madame Abissou Bidoun a été portée en terre le samedi 28 décembre 2024 à Nangaïboko. L'année 2024 emporte avec elle de grands patrons d'entreprise. Charles Botoangon en fait partie.
Les normes sont des outils et ces outils interviennent dans tout ce que nous faisons dans la vie. Dans nos différents pays, nous devons développer les outils d'analyse, de contrôle. Nous devons avoir de bons laboratoires. Ces laboratoires devront être accrédités de telle sorte que les résultats qui sortiront de ces laboratoires ne soient pas attaquables.
Le directeur général de l'Agence des normes et de la qualité s'est éteint le 29 juin dernier à Yaoundé. C'était l'un des pionniers des questions de normalisation pour la compétitivité des entreprises au Cameroun. Dans la nuit du 17 au 18 décembre dernier, un autre patron a quitté la scène. Il s'agit de Louis Epoubeke, directeur général de l'autorité portuaire nationale. Ce poste, il ne l'occupait pourtant que depuis 3 années. Louis Epoubeke s'attelait au développement du transport fluvial et au lancement des travaux de construction du port en eau profonde de Limbé. La gendarmerie nationale a vu ses précédents patrons ranger définitivement leur bâton de commandement. D'abord le 16 janvier avec la disparition de Jean-Baptiste Bocam, par ailleurs président du conseil d'administration de la BISEC.
Depuis 2011, nous avons engagé au niveau du Cameroun un programme dénommé Contrôle, Surveillance, Répression sur les routes. C'est un programme qui est supervisé par le chef de l'État, chef des armées, et qui consiste à envoyer nos équipes sur le terrain, notamment sur les axes accidentogènes, pour veiller à ce que les règles élémentaires à la circulation routière soient respectées par les usagers. Il arrive que moi-même je descende sur le terrain pour m'assurer que les instructions que j'ai données à mes collaborateurs sont bien appliquées.
Ensuite, le 30 juin, avec Jean-Marie Aléocole, qui présidait également le conseil d'administration de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité. Les jalons de la modernisation de la gendarmerie nationale et du climat de confiance dont elle bénéficie auprès de la population ont été posés au cours de leur commandement. Le Parlement a lui aussi porté le deuil en 2024. Les sénateurs RDPC François-Xavier Ngoubeyou, Karl Moses Mbofung ainsi que l'honorable Luc Koua, député à l'Assemblée nationale, ont rangé leurs écharpes tricolores. La grande faucheuse n'a pas épargné la famille de la communication. L'enseignant de journalisme helléstique, le professeur Jean-François Guégan, s'en est allé le 22 décembre dernier, ancien chef de département radio à la prestigieuse école et ancien responsable à la CRTV. Son décès brouille les ondes juste 2 mois après celui du docteur Hassène Godfrey, le 2 octobre. C'était le directeur délégué adjoint de l'Institut de conservation du patrimoine audiovisuel de la CRTV. Le sourire du footballeur Landry Nguemo continue d'illuminer les cœurs de ses nombreux supporters. L'ancien milieu de terrain des Lions Indomptables du Cameroun a perdu la vie le 27 juin dernier des suites d'un accident mortel sur l'axe routier Yaoundé-Bafoussam. Le professeur Roger Tsafak Namfosso, recteur de l'université de Chang, et le ministre délégué auprès du ministre de la Justice garde des Sceaux, Jean de Dieu Momo.
Nous sommes en larmes et nous espérons que la graine que cet enfant a semée permettra à tous les autres enfants de la Menoua de se souvenir qu'ils ont un département qui a besoin, qui a soif.
La Menoua a perdu un enfant chéri, mais c'est vraiment le Cameroun qui a perdu.
Ces fans meurtris n'ont pas encore séché leurs larmes pour ce valeureux patriote généreux dans la vie, comme dans les stades.
Dimanche midi, sport.
DM Sport, dernière édition de l'année 2024, s'inscrit dans le registre du bilan. Année marquée au Cameroun par 2 événements sportifs d'envergure, la qualification du Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025 et la distinction accordée par la Confédération africaine de football au chef de l'État, Paul Biya, pour sa contribution au rayonnement de cette discipline sportive. 2024, c'est également la déroute des Lions à la CAN de football en Côte d'Ivoire, la participation en demi-teinte aux Jeux olympiques et paralympiques, ainsi que le retour victorieux en MMA du Camerounais Francis Ngannou. Fritz Bayamak, passe en revue les performances et contre-performances de l'année sportive 2024 au Cameroun. Bon après-midi, Fritz.
Bon après-midi, Florence. Le lundi 16 décembre est à marquer d'une pierre blanche pour le football camerounais lors de la cérémonie des Awards qui récompense les meilleurs de l'année pour la Confédération africaine de football. Un homme est appelé sur le podium. Paul Biya, le chef de l'État camerounais, est distingué pour sa contribution au développement du football. Une récompense largement méritée. Philippe Mbargamboua, ministre chargé des missions à la présidence de la République.
Il s'agit d'un trophée qui honore un homme qui a beaucoup contribué à l'évolution du football, une très haute personnalité qui a poussé le football et son équipe nationale vers des horizons absolument merveilleux. Et le président de la CAF a dit, interpellant d'autres présidents, qu'il faut suivre l'exemple du président Biya. Ce trophée est le trophée du chef de l'État par rapport à tout ce qu'il a fait dans ce pays pour les sports. Les résultats les plus brillants qu'on ait fait dans ce pays, c'est sous l'ère du président Biya. Nous avons gagné 5 Coupes d'Afrique avec le président Biya. Nous avons fait un parcours remarquable en Coupe du Monde avec le président Biya. C'est lui qui donne l'impulsion et c'est cette impulsion qui fait voler haut l'équipe nationale.
Et pourtant, l'année avait plutôt démarré sous de mauvais auspices, avec la plus prestigieuse compétition d'Afrique de football. Après une qualification laborieuse, on avait pensé que les Lions Indomptables allaient rugir très fort en Côte d'Ivoire. Un match nul contre la Guinée, une défaite face au Sénégal. Rigobert Song et ses garçons vont faire illusion contre la Gambie avant de s'effondrer contre le Nigeria. Un cauchemar pour les supporters et une sortie prématurée qui laissera des traces. Alain-Georges Betty, président de l'Observatoire de gestion du football africain.
Cela a été précoce au point de provoquer et de susciter d'énormes amertumes au sein des esprits. C'est dans cette logique particulière que le discours du chef de l'État ce 10 février 2024 est venu apaiser les esprits avec à la clé l'annonce d'une redynamisation de l'équipe nationale de football du Cameroun. La suite a été porteuse de résultats positifs sur le terrain des opérations.
Des résultats positifs portés par un nouveau staff sur lequel va se cristalliser une bataille féroce entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Mais les Lions Indomptables vont rester zen et se qualifier pour la CAN au Maroc deux journées avant le terme des éliminatoires. Gabriel Zabo, entraîneur de football.
Je mettrai d'abord à l'actif des joueurs qui ont fait le dos rond, les joueurs qui n'ont pas considéré les problèmes extra, qui se sont concentrés sur leur travail. Ils savaient que c'est le Cameroun qui gagne. C'est ça qui a fait à ce que nous puissions facilement remporter les rencontres pour nous qualifier.
Une véritable force mentale dont fera également preuve Francis Ngannou. Deux défaites de rang en boxe anglaise et un drame personnel. Le Camerounais retrouvera encore la force et des ressources pour aller reconquérir son titre en Mixed Martial Arts le 19 octobre à Riyad, en Arabie Saoudite. Emmanuel Bankolo, consultant sportif.
Il avait mis ce combat sous la bannière d'un hommage à son défunt fils et il lui a bien rendu hommage. Ça l'a rassuré lui-même. Après deux combats du côté de la boxe, il est resté le patron du MMA. Ça, c'était très important. Maintenant, pour le public camerounais, ça a aussi été quelque chose de très beau. Une bonne nouvelle que de voir Francis Ngannou pouvoir encore lever une ceinture et être vainqueur d'un combat.
L'année 2024 est également marquée par les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques qu'accueille Paris, la capitale française. Les Camerounais ne sont pas de la fête. Les Cameroun Olympique et Paralympique Team, presque réduites à leur plus simple expression, au vu du nombre d'athlètes qualifiés, rentrent bredouille au bercail, à la grande désolation des observateurs. Emmanuel Bankolo.
Sur le plan comptable, ce fut un échec. Sportivement, ce fut un échec. Le côté positif de ces JO, c'est simplement que ça a dégagé l'état de notre mouvement sportif. On a bien vu qu'il y avait un problème d'impréparation, il y avait des problèmes de management.
Mais le verre à moitié vide, d'autres le voient à moitié plein. Les victoires ne consistent pas toujours à glaner des médailles. Il faut juger en fonction de chaque compétition. Ahmad Kalkaba Malboum, président du Comité national olympique et sportif du Cameroun.
Nos athlètes se sont comportés dignement. Donc je pense que c'est un résultat qu'il ne faut pas négliger. Chaque compétition a ses réalités. Donc le sport n'est pas aussi rationnel que cela. Ceux qui ne le connaissent pas, ils pensent que ne pas être qualifié, ne pas gagner une médaille, ce n'est pas acceptable. Mais il faut pourtant accepter parce que la compétition donne toujours ses réalités et nous devons accepter cette réalité.
Des réalités du sport que les Camerounais attendent avec la nouvelle année qui démarre dans quelques heures. Une année qui sollicitera encore le pays dans plusieurs disciplines
à travers la planète. À dimanche.
Dimanche midi, dernière édition de l'année 2024, entre en gare. C'était une présentation de Florence Moukou. Mise en onde, Daniel Mamia. Radio assistée par ordinateur, Aïcha Aïdjou. Post-production, Joël Noah, Oscar Afan. Réalisation, Rose Coco, Coralie Laetitia et Mimi. Coordination, George Colomb, Valérie Dikos Oumarou, directeur des rédactions radio. Supervision, Madeleine Sopikoto, directeur central du pôle radio. Supervision générale, Charles Ndongo, directeur général de la CIRTV. Vous pouvez réécouter cette édition cette nuit lorsqu'il sera minuit 15 minutes ou sur internet à l'adresse www.crtv.cm. Mesdames, messieurs, bonne et heureuse année 2025. À bientôt sur cette antenne.